Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
En Chine, il est quasiment un dieu vivant.
Patrick Sabatier.
J'ai envie de dire plus encore, Stéphane. C'est que ça paraît fou, mais lui, son destin l'est. Il est tout à la fois explorateur et brillant chercheur. Stéphane Bern nous raconte un savant français trop peu connu ici, Alexandre Yersin.
Nous sommes le 9 juin 1893, au cœur des montagnes centrales du Vietnam, dans le pays Moi, aux confins de l'Indochine française. C'est un territoire terriblement accidenté, compris sur la carte entre la côte d'Annam et le Mékong, à l'endroit où le fleuve Dong Nai prend sa source. Un territoire dangereux, peuplé d'une tribu hostile aux intrusions. Un territoire infesté de maladies grouillantes, de bestioles dangereuses, de tigres. Et en cette saison des pluies, infesté aussi de sangsues. En certains endroits, ça, on ne fait pas 20 pas.
Vous êtes sûr que c'était un tigre, ça,
oui,
Stéphane ?
Oui, c'était un tigre.
C'était un tigre, plutôt un chat qui avait peut-être un problème gastrique,
non,
je
non,
pense plutôt.
Non, c'était un vrai tigre, ah, oui. Méfiez-vous. En certains endroits, on ne fait pas 20 pas sans en enlever une douzaine qui viennent se coller sur votre peau. Et c'est sans parler des pirates de la montagne qui, armés jusqu'aux dents, terrorisent les alentours, prêts à tout pour dépouiller les petits villages de la région. En ce mois de juin, un homme, pourtant un Français, s'y est aventuré. Il a 29 ans, il est missionné par le gouvernement pour explorer cette région méconnue, en reconnaître les ressources et surtout y déterminer le tracé d'une route qui relierait Saïgon à la côte d'Annam. Alexandre Yersin n'en est d'ailleurs pas à sa première expédition du genre. C'est la troisième qu'il mène sur ces hauts plateaux. Et malgré les privations, les dangers encourus, les fatigues, les misères, la dysenterie contractée lors de son précédent voyage, il a choisi de revenir au mépris du danger. Alexandre Yersin n'est pas craintif, c'est le moins qu'on puisse dire. La preuve, en ce 9 juin, entendant parler d'une bande de pirates armés de fusils, de lances, de piques, de sabres et de coupe-gorge, il vient de prendre la décision de les poursuivre dans la jungle. Accompagné de 3 hommes seulement, 3 locaux, il va les surprendre en pleine nuit dans un village, les menacer d'un revolver et écoper de quelques coups de massue et même d'un coup de sabre qui lui coûte la moitié de son pouce pour finalement réussir à les faire fuir. Quel courage cet Alexandre Yersin! On l'imagine barbu, costaud, peut-être même des balafres au visage, le genre de personnage bourru habitué aux bagarres, téméraire au point de se demander s'il n'est pas un peu fou ou même un peu bête. On pourrait ne pas être loin de la vérité. Certes, Yersin est barbu, mais il n'a rien d'un fou et encore moins d'un imbécile. Cet homme qui se bat dans la jungle est même un scientifique célèbre dans le monde entier, un ancien médecin de l'Institut Pasteur, collègue de l'éminent bactériologiste et immunologiste français Émile Roux, avec qui il a vaincu la diphtérie à peine 3 ans plus tôt, maladie qui fait alors des ravages en France. Un médecin, un chercheur, un aventurier, Alexandre Yersin collectionne les casquettes. C'est un touche-à-tout, un passe-muraille, disent certains. Un savant curieux, productif, interdisciplinaire et doué, bien sûr, oh là, très doué, au point d'exceller dans tout ce qu'il touche. En cette année 1893, son pédigré en témoigne déjà. Et le plus impressionnant reste à venir. Né en 1863 en Suisse, dans le canton de Vaud, Alexandre Yersin entame à 20 ans des études de médecine à Lausanne, les poursuit en Allemagne, puis enfin à Paris. C'est là, dans la capitale d'un pays dont il prend bientôt la nationalité, qu'il mène de front études et travaux de recherche bénévoles dans le laboratoire de celui qui vient d'inventer le vaccin contre la rage, Rudulme. C'est là qu'il découvre, à seulement 25 ans, en 1888, la toxine diphtérique, une découverte majeure. Puis, oh surprise, l'étoile montante de la biologie s'engage comme médecin des messageries maritimes, une compagnie de transport spécialisée pour les lignes d'Extrême-Orient. Le poste n'est qu'un prétexte pour assouvir le besoin d'aller voir ailleurs. Yersin se lance très vite dans un projet, l'exploration des hauts plateaux de l'intérieur de l'actuel Vietnam. Puis 2, puis 3, d'abord à son compte, puis en tant que médecin militaire pour le service de santé coloniale. De là, sa rencontre avec les pirates des montagnes, mais un ennemi plus dangereux encore l'attend. L'année suivante, Alexandre Yersin est mandaté par le gouvernement français et l'Institut Pasteur pour une mission de la plus haute importance en Chine. Étudier l'épidémie de peste bubonique qui frappe le pays. La peste noire, celle qui a décimé l'Europe au XIVe siècle. Au mépris de sa propre sécurité, il se rend à Hong Kong et bataille pour qu'on le laisse avoir accès aux cadavres. Le coup de génie d'Yersin, quand d'autres s'intéressent au sang des malades, Hyacinthe prélève des échantillons de bubons pesteux, leurs lésions cutanées. Et bingo, le 20 juin 1894, il fait une découverte historique. Dans un laboratoire rudimentaire, édifié à ses frais, dans une paillote, à l'aide de son microscope, il identifie le bacille responsable de la maladie. C'est ce qui deviendra la Yersinia pestis. Eh oui, Yersinia, comme Alexandre Hyacinthe. De retour à Paris, avec l'aide d'Émile Roux et de deux autres chercheurs de l'Institut Pasteur, il met au point un remède, la sérothérapie antipesteuse. La grande faucheuse a trouvé son maître. Alexandre Hyacinthe, lui, n'a pas trouvé son Graal. Sa soif d'aventure et de découverte scientifique n'est pas étanchée. Avec le soutien d'Émile Roux, il repart en Indochine, cette fois pour fonder un laboratoire d'études des maladies humaines et épizooties locales. Il l'installe précisément à Nha Trang, alors petit hameau côtier et paradisiaque. Le laboratoire prend de l'ampleur et devient officiellement, en 1904, une antenne de l'Institut Pasteur spécialisée dans les maladies infectieuses des animaux. Pourquoi les animaux ? Car Hyacinthe a compris l'importance du bétail et de la volaille pour l'Indochine. Comme à son habitude, le savant s'intéresse à bien plus que son simple domaine de recherche, et notamment à la santé économique de l'Indochine, et donc à ses ressources agricoles. Lui-même s'est lancé dans l'agriculture pour financer son laboratoire. C'est lui qui a l'idée d'introduire dans le pays la culture de l'EVA, aussi appelée arbre à caoutchouc naturel, qui fera bientôt la fortune du pays. Hyacinthe y fera également importer la culture du quinquina au début de la Première Guerre mondiale, réglant ainsi le problème d'approvisionnement du pays en quinine, alors seul remède au paludisme. C'est lui aussi qui fonde l'école de médecine de Hanoï en 1903. Alors, comment le nom d'un tel ressortissant a-t-il pu être ainsi oublié en France ? Au Vietnam, où il meurt en 1943, et en Chine, où il a contribué aux premières guérisons de la peste, on vénère mieux sa mémoire. À Nha Trang, où il est enterré, le petit pagodon qui jouxte sa tombe est d'ailleurs toujours orné de fleurs et d'encens. Un honneur rare pour un étranger, mais grandement mérité.
Europe 1, historiquement vôtre.